En séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Lundi 5 février, Jean-Marie Pelt, président de l'Institut européen d'écologie, faisait une communication devant les membres de l'Académie des sciences morales et politiques sur le sujet « Les impacts de l'environnement sur la santé ». L'Académie des sciences morales et politiques consacre en 2007 l'essentiel de ses séances au thème « Santé, médecine et société » sous la présidence du professeur Lucien Israël. Retrouvons Jean-Marie Pelt en salle des séances.
Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs, je dois vous dire que j'ai été très touché par votre invitation, qui m'a été droit au cœur, et que j'ai eu un immense plaisir ce matin à rencontrer beaucoup de personnalités de votre académie que j'ai rencontrées il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, de sorte que je me suis trouvé un peu en famille et que cette invitation m'est parue très, très chaleureuse. Le sujet dont j'ai à vous parler n'est pas facile, parce qu'il est immense, parce que les impacts de l'environnement sur la santé touche des domaines extrêmement différents, mais je voudrais évoquer un souvenir lorsque nous avons créé, en 1971, donc il y a très très longtemps, c'est l'année où s'est créé le ministère de l'Environnement, c'est l'année où s'est créé le premier service de l'environnement à l'Union européenne, ces problèmes n'étaient pas pris en compte. L'écologie, à l'époque, c'était les petites fleurs et les petits oiseaux, dans la définition desquels qui parlait des interrelations entre les êtres vivants et leur milieu, mais dans sa définition, l'homme n'était pas présent. Et peut-être parce que j'avais une formation, disons, santé, il m'a paru très tôt nécessaire d'intégrer l'homme dans l'écologie. Nous l'avons dit, nous l'avons fait, nous avons créer le concept d'écologie urbaine à Metz pour réhabiliter la ville de Metz. Bon, ça m'a valu des inimitiés et des critiques parce qu'on disait c'est pas un vrai écologiste. Nous avons passé outre naturellement et très vite nous avons vu que cette sensibilité où l'homme est présent dans l'écologie, il en est un acteur, mais il en subit aussi les évolutions néfastes commençaient à s'imposer. En 1975, le professeur Hickinson, qui était président du Centre international de recherche sur le cancer, a dit ceci, 80% des cancers sont liés à l'environnement. Ceci n'a pas du tout été reçu à l'époque, il a été extrêmement critiqué, mais je dois dire que ça m'a donné à réfléchir. Et 30 ans plus tard, notre collègue dont nous parlons ce matin, Dominique Bellepomme, lançait son appel de Paris et insistait sur le fait qu'il y avait sans doute une relation entre la pollution chimique, entre l'émergence sur les marchés de quantités très très importantes de nouvelles molécules, souvent non testées avant leur mise sur le marché et qu'on pouvait suspecter d'avoir des impacts négatifs sur la santé. Alors je vous donne un chiffre. En 1930, on a produit 1 million de molécules chimiques. 70 ans après, chaque année, on en a produit 450 millions. Donc il y a eu un emballement extraordinaire de la chimie. Et là, il s'est passé quelque chose de très curieux qui nous a frappé très tôt, je dois dire, et qui a été un des axes de notre action. Nous étions pharmaciens, nous suivions les grandes difficultés de la mise sur le marché d'un médicament, les 10 années de tests préalables à cette mise sur le marché, et nous nous disions comment se fait-il que pour des molécules dont les impacts sont totalement inconnus, il n'y a aucune précaution, qu'il n'y ait aucun test, qu'il n'y ait donc aucune vérification au préalable des impacts néfastes éventuels. Et nous avons pour cela créé le concept d'écotoxicologie, qui a eu un très grand succès, qui est enseigné maintenant dans le monde entier, en disant ceci, il n'y a pas que les médicaments qui peuvent être toxiques, il y a aussi toutes ces molécules que l'on fabrique et qui peuvent l'être aussi. Jusqu'en 1981, toutes ces substances ne faisaient l'objet d'aucun test. Après 1981, on a commencé à faire des tests, mais mon Dieu, il faut bien le dire, très modestes. Et puis, on a assisté alors à la mobilisation de l'Union européenne qui a lancé ce fameux programme REACH, Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals, c'est un acronyme, visant à reprendre ces molécules, à les tester et évidemment à éliminer celles qui manifesteraient des propriétés cancérogènes. Le Centre international de recherche sur le cancer en avait déjà repéré beaucoup. Alors, il peut paraître surprenant de savoir, mais je vous le dis, que plusieurs dizaines de molécules considérées comme sûrement cancérogènes sont toujours présentes dans l'environnement, sont toujours mises sur le marché, et que l'application du programme REACH, qui a été adopté en décembre dernier, va, je pense, modifier cela, et que nous allons, comme j'aime le dire, sécuriser et moraliser la chimie pour que nous ayons petit à petit des produits sûrs et que les produits pas sûrs puissent être éliminés et remplacés par des produits de substitution. Je crains que les centaines de milliers de molécules, dont 100 000 sont utilisées couramment sans précaution, soit un des facteurs qui augmente la montée des cancers. Moi, je ne peux pas chiffrer la montée des cancers parce qu'on n'a pas tous les éléments, mais bon, tout le monde constate qu'il y a effectivement, pour des raisons diverses d'ailleurs, de plus en plus de cancers. J'avais pensé, pour cet exposé, consacrer un peu de temps à un problème particulier, peu connu, qui est celui des pesticides, parce que là, nous sommes dans un groupe de molécules qui ont, pour le coup, été testées. Parce qu'on les considérait comme plus suspectes que les autres. Or, malgré les tests qui sont faits depuis maintenant 30 à 40 ans sur les pesticides, on est pendant 20 ans passé à côté de leurs impacts négatifs que l'on a commencé à comprendre seulement il y a une vingtaine d'années. Dans un ouvrage au titre pessimiste qui s'appelait « La fin de l'espèce humaine », c'est pas rassurant, et qui était préfacé par Al Gore, on nous disait que les pesticides avaient des propriétés de perturbateurs endocriniens, qu'ils mimaient les hormones femelles et qu'ils féminisaient la nature. Et d'innombrables recherches scientifiques ont montré qu'en effet, surtout aux États-Unis, on trouvait des espèces animales où les mâles étaient féminisés. Alors, ça pouvait être des oiseaux dont les organes sexuels, lorsque c'était des mâles, contenaient des ovocytes, ce qui est étrange évidemment pour un mâle. Ça pouvait être des poissons. Sachez qu'actuellement, si vous êtes sur un pont, sur la Seine, en dessous du pont, passe 45% de poissons qui sont transsexuels. C'est extraordinaire, c'est comme ça, ça a été bien étudié. Sachez que les tortues ne savent plus faire l'amour parce que les mâles n'ont plus d'appétence pour les femelles. Et puis il y a cette extraordinaire histoire des alligators du lac Apopka, lac dans lequel se sont déversées des quantités importantes de pesticides, alligators qui contiennent dans leur tissu des quantités importantes de pesticides et qui n'ont plus d'intérêt pour leurs femelles. Par-dessus le marché, excusez-moi d'être trivial, ils sont plutôt mal montés avec des pénis réduits à leur plus simple expression. Ils n'ont plus de contact sexuel avec les femelles et donc il n'y a plus de bébés. Alors des histoires comme ça, évidemment, je pourrais être très long, nous n'avons pas le temps. ont entraîné, de la part d'un éminent collègue danois, le professeur Tschekelbeck, une question qu'il a exprimée de la manière suivante. Nous aussi, nous sommes en contact avec des pesticides, alors, eh bien, qu'en est-il pour nous ? Nous sommes en contact avec les pesticides, oui, beaucoup. Nous produisons en France et nous répandons 100 000 tonnes, en gros, par an de ces substances. Ce chiffre n'a pas beaucoup diminué au cours des dernières années. Ceci se poursuit depuis maintenant 50 ans. On a des chiffres inquiétants. 97% des nappes souterraines contiennent des pesticides, des eaux de surface, pardonnez-moi, contiennent des pesticides, et 61% des nappes souterraines contiennent des pesticides. C'est-à-dire que l'eau que nous buvons contient souvent, pas toujours, mais enfin souvent quand même, des traces de pesticides. Sachez aussi que la pomme que vous allez acheter dans un hypermarché a été arrosée entre 20 et 30 fois et qu'elle a 20 chances sur 100 de contenir aussi des résidus de pesticides, de sorte que nous sommes malheureusement exposés à ces résidus de pesticides. Et là, le professeur Tschekelbeck, le Danois, a dit: quelles conséquences pour notre santé ? Sont tombées toutes sortes d'études scientifiques. Je résume, il en ressort ceci. Premièrement, nous autres Européens, les hommes qui sont ici en majorité, c'est moins dramatique pour les femmes, puisque ces pesticides miment les hormones femelles, mais les hommes ont perdu 40% de leur stock de spermatozoïdes en 40 ans. Deuxième chiffre, la stérilité masculine augmente de 1,5% chaque année. Je précise, 1,5% chaque année. C'est effrayant. Troisième constat, le nombre des petits garçons qui naissent avec des anomalies de leur appareil génital augmente très vite aussi. Le professeur Charles Tutan de la faculté de médecine de Montpellier a eu il y a 3 ans dans sa maternité 27 petits garçons anormaux sur 970 naissances, ce qui fait 2,7%, ce qui est un chiffre insensé, vraiment incroyable. Et il a pu remarquer que ces pauvres enfants venaient du milieu des agriculteurs et des viticulteurs qui non seulement utilisent beaucoup de pesticides, mais qui utilisent partout le marché des pesticides particulièrement suspects. Il a aussi montré que les cancers du testicule chez les petits garçons, lorsqu'ils avaient de telles anomalies, et en particulier lorsque les testicules ne descendaient pas dans les bourses, augmentaient considérablement. Donc nous avons là toute une série de pathologies qui sont devant nous et que nous devons aujourd'hui prendre en compte. Le WWF a voulu sensibiliser les ministres de l'Environnement à ce drame. Alors on a analysé le sang de messieurs les ministres des 25 pays de l'Union européenne et tous avaient dans leur sang et dans leur graisse en gros entre 50 et 80 molécules. Mais si on avait fait une analyse plus fine, on aurait trouvé 200. Et puis si on fait une analyse plus fine encore, on aurait pu trouver plus. Donc nous sommes tous contaminés. Et nous avons tous dans notre sang et dans nos graisses aujourd'hui de tels produits. C'est moins mauvais pour les femmes. Parce que d'abord, les femmes, ça n'a pas un impact sur le stock des spermatozoïdes qu'elles n'ont pas. Et deuxièmement, parce que les femmes relarguent, lorsqu'elles font un bébé, ces substances par le cordon. Mais ça veut dire que le petit bébé qui naît aujourd'hui naît avec 60-70 substances toxiques dans son sang et que pendant la durée de sa vie, il va en accumuler davantage. Alors tout ça, évidemment, vous le voyez bien, est tout à fait inquiétant. Et nous sommes devant la nécessité absolument impérative de diminuer les quantités de pesticides répandus dans l'agriculture, ne serait-ce que pour protéger d'abord les agriculteurs, qui sont les premières victimes, puisque c'est eux qui les manipulent, et puisque ce sont leurs petits-enfants qui sont, comme l'a vu M. Sultan, les premières victimes. Bon, eh bien, écoutez, excusez-moi d'être un peu cru, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas en France. Parce que on n'arrive pas à expliquer aux paysans que ça les protégerait. Parce qu'on n'arrive pas à leur expliquer que s'ils faisaient comme font les Danois, les Scandinaves, ils obtiendraient des résultats et des rendements identiques, avec beaucoup moins de pesticides. Parce qu'on sait comment il faut faire pour ça. Il y a des pratiques agricoles adaptées qui permettraient d'obtenir les mêmes rendements avec des quantités plus faibles de pesticides. Pour le moment, on n'est pas encore arrivé, mais c'est à mes yeux un très grand problème de santé publique et la grande difficulté, c'est que ça se voit pas. Parce que nous sommes aujourd'hui le 5 février et il fait 13 degrés. Alors, c'est l'anticyclone de Sibérie. Donc, le 5 février, quand il y a l'anticyclone de Sibérie, il fait moins 10. Bon, il fait 12. Donc, tout le monde voit qu'il y a quelque chose qui déraille pour le climat. Tout le monde le voit. Mais là, personne ne voit. Et tant qu'on ne voit pas, il n'y a pas de réaction. Et c'est la raison pour laquelle nous avons une extrême difficulté à sensibiliser le monde des médias, l'opinion publique sur ce problème. Je veux dire que pour moi, il est plus reposant de faire un discours sur le réchauffement climatique où tout le monde est avec vous tout de suite que sur ces thèmes-là qui sont plus conflictuels et qui sont beaucoup plus difficiles à faire passer dans les médias et dans l'opinion publique. Les pays du nord de l'Europe ont fait des progrès considérables sous la pression précisément du professeur Schäkelbeck et moi j'aurais voulu que nous en fassions aussi et ceci a évoqué pour moi un souvenir très 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 sombre dans ma vie scientifique lorsque nous avons créé l'Institut d'écologie en 71 à Metz. En 72 nous avons lancé avec nos petits moyens une campagne contre l'amiante. Et nous n'avons pas été écoutés, et dans certaines autres instances, parfaitement ridiculisés. Alors on a dit, enfin, qu'est-ce que c'est que ce petit professeur de botanique de Metz? Alors comment voulez-vous qu'il sorte quelque chose de Metz? C'est comme de Nazareth, dont on ne pourrait pas penser qu'un Jésus quelconque puisse en sortir. Donc on a été anéantis, nos actions n'ont eu aucune efficacité, et on a perdu 25 ans, puisque c'est en 97 seulement qu'on a arrêté l'amiante. Nous avions dit, l'amiante fait 3000 morts par an, ce chiffre n'a jamais été contesté, et l'amiante fera encore beaucoup de morts, parce que le malheur avec les cancers, c'est que quand on est exposé à une substance cancérogène, le cancer se déclenche 10, 20, 30 ans après, donc les conséquences s'étalent sur des temps très très longs, et j'avoue que j'aimerais pas revivre un processus du même style en ce qui concerne les pesticides. Je voudrais vous citer ici une parole de Lamarck que j'aime beaucoup, qui disait ceci, « Quelques difficultés qu'il y ait à découvrir des vérités nouvelles en étudiant la nature, il s'en trouve de bien plus grandes encore à les faire reconnaître. » Et c'est l'histoire de ma vie. Nous avons eu énormément de mal à faire reconnaître des problèmes dont nous savions, parce qu'on les avait beaucoup étudiés, qu'ils étaient sérieux, qu'ils étaient réels, et qu'ils devaient appeler des solutions. Mais en effet, ça n'est pas toujours facile. Un autre point sur lequel je voudrais insister à propos de cet exemple des pesticides, de cet exemple des molécules chimiques innombrables, c'est que nous sommes en train de sortir d'un paradigme médical qui est le paradigme pastorien. Le paradigme pastorien, c'est ceci. Un germe produit une maladie localisée à un endroit du corps. La tuberculose, c'est les poumons, etc. La typhoïde, c'est l'intestin. Ce germe peut être atteint par un antibiotique spécifique qui le détruira. C'est merveilleusement simple. Ça ne marche pas dans les pays du Sud, où on est loin d'avoir maîtrisé les maladies bactériennes comme on l'a fait chez nous, et où il y a actuellement 7 à 10 millions de morts chaque année liées à l'eau contaminée. Je touche du bois, mais je voudrais pas que chez nous on fasse marche arrière sur le paradigme pastorien et qu'en raison des résistances des germes aux antibiotiques, on revoie monter les maladies bactériologiques. Mais on est ici dans une approche qui est relativement simple, monofactorielle, et que la médecine arrive à cerner avec précision, aussi bien pour le diagnostic que pour la thérapeutique. Alors là, nous sommes maintenant dans un paradigme tout à fait différent. Nous avons des molécules innombrables qui circulent partout, nous avons des pollutions innombrables qui se répandent partout, dans les pollutions, nous avons des mélanges de produits polluants qui agissent tous en synergie, et puis tout cela, ça produit sur la santé des pathologies souvent atypiques, pas très bien connues, mais dont on voit que certaines, en tout cas, montrent très rapidement. Je pense à la bronchiolite, je pense à l'asthme, je pense à l'allergie, la sérité masculine, nous venons d'en parler, et les cancers, naturellement. Donc, le lien que l'on pouvait faire autrefois entre un germe, un organe, un médicament, c'est fini. Nous avons tout un potentiel multifactoriel de causes. Nous avons des pathologies difficiles à cerner, souvent très atypiques, sans parler la spasmophilie, la fibromyalgie et tout ça, qui sont des pathologies très très complexes à cerner. Nous n'avons jamais une cause unique. Nous n'avons pas de stratégie thérapeutique et nous sommes rentrés dans un nouveau paradigme de la médecine qui est sa réplique à ce qu'on pourrait appeler, disons très globalement, les pollutions d'origine chimique. Donc c'est en quelque sorte petit à petit une nouvelle médecine qui commence à se mettre en place et pour laquelle nous sommes encore très largement démunis. Mais je pense que dans ce domaine-là, il faudra beaucoup creuser, il faudra prendre en compte des paramètres qu'on n'a jamais pris en compte. Nous avons beaucoup travaillé sur les impacts des toxiques de la pollution de l'air. Un polluant de l'air ne produit pas du tout le même effet qu'une soupe de polluants. À des doses plus faibles, une soupe de polluants a des effets souvent beaucoup plus catastrophiques que lorsqu'un seul polluant intervient à forte dose. Nous avons expérimenté là-dessus sur les animaux. Et donc, je pense qu'il faut qu'on repense vraiment notre manière d'approcher les maladies, disons, environnementales. Alors, je change de registre maintenant et je vais évoquer d'autres pathologies liées à l'environnement. Il y a naturellement le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique aura toutes sortes de conséquences. D'abord, il y aura des catastrophes météorologiques. Alors, il y aura des inondations, des sécheresses, des cyclones, des coulées de boue qui tueront des gens. Ça, c'est sûr. Il y aura plus de morts dues à ces phénomènes liés au réchauffement, qui seront des phénomènes plus brutaux et plus nombreux. Le GIEC a discuté d'une manière un peu complexe les cyclones. Je dois vous avouer que j'ai pas très, très bien compris encore le rapport du GIEC, que j'attends avec impatience parce qu'il a été pas très bien médiatisé à mon avis. On a dit un peu tout et n'importe quoi. J'attends de lire les textes pour essayer d'y voir plus clair. Mais bon, on est en tout cas sûr d'une chose, c'est que le réchauffement produira plus d'accidents météorologiques graves qui feront par conséquent plus de morts. Quant aux canicules, celle de 2003 a fait près de 15 000 morts. On pense qu'il y aura des canicules beaucoup plus fortes, non plus à 39 degrés comme la dernière, mais à 42-45, ce qui sera évidemment énorme. Il y aura alors dans ces canicules des teneurs très élevées d'ozone dans l'atmosphère. L'ozone est corrosif pour les poumons et on peut donc s'attendre à ce qu'il y ait une mortalité pulmonaire cardiovasculaire plus élevée à travers des épisodes de cette sorte. Aujourd'hui, on ne peut pas vous dire les chiffres de morts prématurées liées à la pollution de l'air. Il y a une dizaine d'études, elles sont toutes contradictoires, donc quand les études ne sont pas coordonnées, je préfère ne pas donner de chiffres, mais disons qu'on sait aujourd'hui que la pollution de l'air fait probablement peut-être quelques centaines ou peut-être quelques milliers de morts prématurées dans nos pays. Alors il y a le bruit. Alors, sur le bruit, il y a des choses nouvelles. Le bruit est une nuisance redoutable. Il semblerait que 10% des consultations en psychologie, en psychiatrie, sont liées aux conséquences du bruit. Beaucoup de gens ne supportent plus les bruits intenses et répétitifs. C'est ce qui se passe au bord des autoroutes, c'est ce qui se passe au bord des aéroports. Et le bruit déclenche alors, ça on le sait très très peu, des phobies très 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 prégnantes, très, très redoutables. Et je voudrais évoquer un souvenir, j'étais premier adjoint au maire de Metz et mon ami Jean-Marie Roche, le maire, avait l'art et la manière de me filer les cas difficiles. Et donc je me suis retrouvé un jour, c'est une vieille dame, 75-20 ans, seule dans son appartement, et qui me dit, Monsieur Pelt, je vais mourir. Je vais mourir parce que je ne peux plus entendre les cloches sonner tous les quarts d'heure la nuit pour annoncer quart d'heure après quart d'heure. Alors je vais mourir. Mais je lui dis, Madame, est-ce que vous pouvez déménager ? Alors pour tout tas de raisons, elle ne pouvait pas déménager, elle n'avait pas les moyens, c'était pas possible. Donc j'ai fait le siège du curé de la paroisse et nous avons arrêté les cloches la nuit parce qu'une vie humaine vaut tout l'or du monde. Et ça a toujours été ma sensibilité. À la mairie de Metz, je m'occupais de, disons, des grandes choses, mais je m'occupais aussi des petites choses et nous avons sauvé ainsi des personnes de situations qui étaient invivables pour eux parce que un élu se doit d'aimer les gens et de les aider à faire face. Et puis alors, il y a quelque chose de très inquiétant, dont on parle peu, c'est la destruction du système auditif des jeunes. Dans les discothèques, dans les boîtes de nuit, avec les baladeurs, ils sont soumis à des bruits très forts, très très forts, et 80 décibels et plus, et tout nous enseigne aujourd'hui que leur acuité visuelle est en perte rapide. Et on évoque la possibilité, quasiment pour une génération, d'avoir des problèmes auditifs majeurs à partir de 35-40 ans. Alors je voudrais bien croire qu'on se trompe, je crois qu'on ne se trompe pas. Et je crois qu'il faut qu'on revoie de fond en comble aussi l'exposition à des bruits très forts. Je voudrais évoquer aussi le domaine de, on en parlait tout à l'heure avec notre président, des expositions au rayonnement électromagnétique. Nous sommes tous évidemment sur toutes sortes de portables, ces portables que ce soit les ordinateurs ou les téléphones ont aujourd'hui 10 ans. Je prends cette idée des 10 ans parce que ça veut dire que nous n'avons pas de recul. Si par malheur il y avait un impact de ces portables sur d'éventuels cancers qui se manifesteraient dans 20 et 30 ans, aujourd'hui nous n'en savons rien. Bernard Kouchner a vivement déconseillé les portables aux enfants. Bien sûr, il n'a pas été entendu. Il est extrêmement important pour le progrès de l'humanité qu'un enfant de 8 ans puisse communiquer avec son petit copain pour lui demander « t'es où ?», etc. Enfin, tout ça qui est complètement idiot, mais que vous voyez tous les jours, c'est une oscillation. C'est dangereux pour les enfants. C'est dangereux pour les enfants parce que la structure de leur système auditif est encore en pleine évolution et il y a des rayonnements importants venant du portable. Il y a encore un autre cas où le portable est redoutable. Je vous conseille d'être attentif. Dans les TGV, il ne faudrait pas utiliser de portable parce que, au fur et à mesure que l'on circule à une vitesse très grande, le portable se fixe sur des relais successifs. Et chaque fois qu'il passe d'un relais à un autre relais, il pousse sa puissance au maximum. Et à ce moment-là, les ondes que vous recevez sont très importantes. Et donc, normalement, il serait sage de ne plutôt pas téléphoner dans un TGV. En tout cas, ça fait l'objet d'une discussion à l'Office parlementaire des choix technologiques tout récemment, et je crois qu'il y a eu une unanimité sur ce point. Alors, évidemment, nous sommes ici dans un domaine très controversé et très difficile, parce que, en ce qui concerne l'impact des technologies sur la santé, il y a un paradoxe tout à fait singulier sur lequel j'attire votre attention. Premièrement, prenant en compte les impacts, disons, pour faire bref, des technologies de la communication. Pas de débat, pas d'inquiétude, pas de souci. Les technologies de la communication, c'est le bien. Elles sont connotées positivement dans toutes les opinions publiques. Et s'il y a par-ci par-là une étude inquiétante sur ces thèmes-là, elle est enterrée tout de suite et elle n'a aucune audience, bien que plusieurs services hospitaliers en France et à l'étranger ont créé des centres pour traiter les addictions à l'Internet. Alors, une petite anecdote, ce matin, en prenant mon café, je lisais le Figaro. Et il y avait un long article sur le site de Ségolène Royal. Et alors, il y avait toute une série d'internautes qui disaient le nombre de fois où ils ont contacté le site. Alors, il y avait un certain Chris, n'est-ce pas, qui était professeur des collèges et qui se vantait d'avoir contacté le site 2000 fois. Il avait beaucoup de choses à dire. Ça devait être un génie. Et puis après, c'était une longue liste. Il y avait aussi une personne qui disait « Je suis très malheureux si toutes les 5 minutes, je ne peux pas contacter le site parce que je ne sais plus où elle est. » Bon, non, mais tout ça est très inquiétant. Je veux dire, c'est des addictions, c'est de nouvelles addictions. Et on crée effectivement des services hospitaliers, si j'ai bien... mes fiches à jour, il y en aurait déjà 5 en France, pour soigner des gens qui deviennent des accros à l'Internet, des jeunes qui ne mangent plus, qui n'ont plus aucun contact avec leurs parents, qui sont claquemurés dans leur chambre et qui sont sur les engins du matin au soir. Vous voyez donc qu'il y a tout de même des questions qui se posent et qu'une technologie, quelle qu'elle soit, n'est pas neutre. Mais celle-ci est considérée comme étant le nec plus ultra de l'avenir de l'humanité. Je fais une dernière toute petite remarque sur ce point très précis. Je suis tout à fait convaincu, travaillant beaucoup sur les jeunes, avec des jeunes à Metz où on les initie à la nature, que chacun d'entre eux penserait que s'ils n'avaient plus leur portable, ils seraient morts dans les 15 jours. Non, il ne serait pas mort dans les 15 jours. Mais si par contre il n'y avait plus la nature, il serait mort tout de suite. Ça, c'est absolument certain, parce que nous ne pouvons pas vivre sans les plantes, sans les animaux. C'est impossible. Nous sommes de la nature, dans la nature, nourris par la nature, soignés par la nature. Nous sommes intégrés dedans, mais on ne le sait plus. La jeune culture, les jeunes, malgré tous les efforts que l'on peut faire pour dire on les remet dans la nature, on les initie à la nature, on les emmène dans la nature, sont comme en gros les enfants de la technologie. Alors le paradoxe, c'est qu'il y a d'autres technologies qui sont les technologies biologiques, les biotechnologies. Alors là, c'est exactement l'inverse. Autant les technologies de la communication sont en quelque sorte vénérées, pour ne pas dire idolâtrées, autant les biotechnologies sont extrêmement suspectes. Parce que c'est le clonage, parce que c'est le bricolage des embryons, parce que ce sont les OGM, dont nous ne sommes pas foutus d'avoir des tests précis sur les impacts sur la santé. Moi, je n'ai pas de position a priori, je suis un scientifique. Mais ça, c'est mon métier, puisque c'est de la botanique. Donc, je voudrais que nous ayons des tests sur la santé d'écotoxicologie, puisque nous avons inventé à Metz toute une série de tests d'écotoxicologie et qu'on sait les faire. Ça consisterait à prendre des OGM, qui contiennent toujours des petites traces de pesticides, et à en nourrir des animaux de laboratoire pendant 2 ans, ce qui est la norme pour un test d'écotoxicologie, puis voir ce qui se passe. Pour répondre à cette question, que se passe-t-il si nous mangeons des OGM pendant 50 ans? Ben, nous n'arrivons pas. Les multinationales, il y en a 7 qui fabriquent des OGM, ne veulent absolument pas, et les pouvoirs publics qui sont en face ont peur de le leur demander. Alors, ça fait 10 ans qu'on tourne en rond. Quand je saurai qu'il n'y a pas de problème sur la santé, j'aurai plus de problème avec les OGM. Mais ça serait important de le savoir, et c'est une des raisons sans doute pour laquelle, par intuition, 80% de la population française sont, comme vous le savez, réticents aux OGM. Alors, voilà, passer très rapidement en vue quelques thèmes. La réponse qu'on va me faire est celle-ci. On va me dire, mais l'espérance moyenne de vie ne cesse d'augmenter. C'est la vérité. C'est dû, à mon avis, à plusieurs facteurs. D'abord, les progrès vertigineux de la médecine, extraordinaire, en matière de thérapeutique, en matière d'intervention chirurgicale, en matière de diagnostic, progrès extraordinaire, progrès en matière de prévention pour le tabac, l'alcool, les accidents de la route, les accidents au travail, tous ces facteurs interviennent massivement, et donc on s'en réjouit. Mais nous aimerions que l'effort de prévention soit poussé beaucoup plus loin, et que connaissant toute cette problématique nouvelle, subtile, insidieuse, d'un environnement qui change par la chimie, par les ondes électromagnétiques, par le bruit, que l'on intègre tout ça aussi aujourd'hui dans les stratégies de prévention, et on n'est pas encore tout à fait prêt à le faire. Et puis alors il y a les menaces. Il y a les menaces qui pourraient faire basculer un jour l'espérance moyenne de vie. Alors c'est l'obésité par suralimentation et sédentarité. C'est évidemment des cancers qui sont, on le sait bien, liés au vieillissement, mais qui sont sans doute liés à l'ensemble de tous les facteurs que nous venons d'évoquer. Et moi je suis frappé de constater autour de moi beaucoup de cancers. J'ai 2 amis en ce moment qui meurent du cancer. Ça a été vite en plus pour l'un d'entre eux. Il l'a su il y a 1 mois et il est déjà très mal embarqué. Ce qui me frappe beaucoup, c'est que la victime dit « j'ai attrapé le cancer ». Si vous tombez du 2e étage, vous vous cassez la jambe et vous dites « je me suis cassé la jambe, virgule ». Parce que je suis tombé du 2e étage. Si vous attrapez la grippe, vous dites j'ai attrapé la grippe parce que j'ai eu un refroidissement ou parce qu'il y a une épidémie de grippe. Si vous attrapez le cancer, vous ne savez pas pourquoi. Vous n'avez aucun lien entre les causes, il y en a forcément parce qu'il n'y a pas d'effet sans cause, et la maladie. Et de ce point de vue, je suis inquiet. Alors je vous pose une question, je n'ai pas la réponse. Ça fait 3 fois que des cancérologues me disent que la pilule pour les jeunes filles avant l'âge du premier accouchement peut produire des cancers, qu'après le premier accouchement, elle n'en produit plus. Je n'ai pas d'avis, c'est pas mon métier. Mais comme on me le dit à répétition, et comme des Italiens l'ont dit aussi, je me pose des questions, j'en sais rien, moi, de la pilule Mais peut-être qu'il faut se poser aussi des questions sur, sur ce point précis. Puis il y a la montée des maladies virales dont personne ne sait où elles nous emmènent. Alors maintenant, il y a la grippe aviaire. Dieu merci, nous avons un excellent médicament. La grippe aviaire était censée être guérie par le Tamiflu. La Tamiflu a un lien très étroit avec le pastis, puisqu'il est fabriqué avec la badiane, l'anis étoilé, qui sert à faire les pastis. C'est ce que m'a raconté Patrick Ricard. Mais en fait, elle a un médicament d'une efficacité foudroyante, et je m'adresse ici aux responsables de l'économie, inventer un nouveau CPE, et la grippe aviaire part tout de suite. Si on parle de la grippe aviaire à la télé, et qu'on ne parle plus que de ça, comme ça a été le cas il y a un an, survint le CPE, la grippe aviaire a totalement disparu des écrans en l'espace de 10 minutes, et donc je me suis dit, quel merveilleux médicament que le CPE sur la grippe aviaire. Alors, je conclue, la montée en puissance rapide de la sensibilité écologique nous permet aujourd'hui de prendre en considération de plus en plus la multiplicité de ces facteurs qui sont la conséquence d'une transformation vertigineusement rapide de nos environnements. Comme tout change très, 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 très vite, il est logique de concevoir que les impacts sur la santé sont de plus en plus probables. Et donc, l'effort de réflexion, l'effort de prévention doit se développer et doit se développer fort et vite. Et je pense que ça va pouvoir se faire. J'ai été extrêmement frappé lorsque Nicolas Hulot a infligé une agrégation aux candidats à la présidentielle, puisqu'ils sont passés, comme je suis passé moi-même quand j'ai fait en 61 mon agrégation de pharmacie, devant un jury qui était composé en l'occurrence de 150 personnes. Ils ont chacun eu leur petit quart d'heure. Il y avait une pendule qui sonnait quand l'heure était arrivée de cesser l'entretien. Alors j'ai été frappé qu'un candidat pas écologiste du tout était le seul à parler de tout ça. Alors je me suis dit, donc, ces idées progressent. Et elles doivent progresser. Si nous voulons vraiment améliorer la santé, il faut que nous prenions des précautions. Et je pense que psychologiquement, nous arrivons à une époque où nous sommes plus proches qu'à d'autres époques de prendre des précautions. Pour qui ? Ben, chers amis, pour nos enfants. Ben, on parle des générations futures. Mais je ne parle plus, moi, des générations futures. Moi, je parle de la génération future. Je parle de la génération de nos enfants. Je parle de l'enfant qui naît à Paris au moment où nous sommes ensemble et où nous parlons. Quel avenir pour eux ? Eh bien, cet avenir sera extrêmement lié aux stratégies que nous arriverons à développer pour répondre à tous les défis que très rapidement J'ai essayé d'évoquer, c'est ce qui pour moi est mon engagement. Je suis à la retraite de l'université, je ne travaille en fait que pour les enfants, et je voudrais en conclusion vous citer un adage des Védantas de l'Inde, qui sont des textes sacrés de l'hindouisme, où j'ai lu cette phrase étonnante. Et elle m'évoque la lutte contre l'amiante qui avait échoué, nous n'avions pas réussi à temps. Alors on voilà ce qu'on dit. Ni dans l'air, ni au milieu de l'océan, ni dans la profondeur des montagnes, ni en aucune partie du vaste monde, il n'existe un lieu où l'être humain puisse échapper aux conséquences de ses actes. Je trouve ça admirable, je crois que c'est vrai. Et je pense qu'il faut que nous nous y employions. Merci, chers amis.
Vous venez d'entendre Jean-Marie Pelt, président de l'Institut européen d'écologie, qui faisait une communication devant les membres de l'Académie des sciences morales et politiques sur le sujet « Les impacts de l'environnement sur la santé ».